Vous écoutez
RMC. RMC.
Jusqu'à 8h.
Le petit vin de Londres.
Le vin, c'est la terre.
Qu'est-ce que c'est que ce vin?
Votre maison.
J'ai jamais eu le vin mauvais. Plutôt affectueux. Même grotesque. J'avais en tout cas le charme de l'imprévu.
François Sorel.
De vouloir vin rouge.
Et bien sûr, monsieur, avec plaisir, vin rouge.
Christian PC.
Tu vas pas lui donner un vin dont on sent à 10 mètres qu'il est hors de prix.
Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai.
T'as pas un petit vin ordinaire?
Non, je n'ai pas de petit vin ordinaire.
Non, vous engueulez pas pour du vin quand même.
Une bonne bouteille de vin.
Tabernacle.
Tabernacle,
bon, Christian,
oui.
Je sais que vous êtes un amateur de vin, hein, même si
oui,
un petit peu moins.
Avec modération.
Toujours.
On boit quand même de moins en moins.
Et puis faites attention, Christian, Ricain n'est pas loin. Après, il va vous sermonner.
Mais oui, lui, il va me dire un verre par semaine, quoi, c'est ça.
tout dépend de son humeur. Parfois, oui, c'est un verre par jour, et puis des fois, c'est un verre par semaine. Donc, il faut faire attention. Enfin, bref, qu'on boive ou pas, c'est vrai qu'on est tous très nombreux à conserver quelques bonnes bouteilles. Simplement pour faire plaisir, parce que c'est aussi ça le vin, c'est pour se faire plaisir. Et puis, on a toujours des événements importants à fêter. Et donc là, on aime bien ouvrir une bonne bouteille. Le problème, c'est que le vin, eh bien, c'est très capricieux. Ça se conserve d'une manière particulière.
Alors, ça se conserve dans des conditions d'hygrométrie, dans des conditions de température, dans des conditions d'éclairage, c'est-à-dire le moins possible, et tout ça, donc, ça permet de conserver les vins, en notant aujourd'hui que les méthodes de vinification permettent de boire des vins plus tôt, plus jeunes, mais permettent aussi d'avoir des vins de longue garde, qui permettent on peut garder aujourd'hui des vins des dizaines d'années, si on les élève correctement. Moi, j'ai vu des vins très, très, très anciens, je voudrais même vous dire, si je vous dis que j'ai bu un jour un vin de 1848.
1848
et qui était encore là, si j'ose dire. Il n'était pas. Alors, c'était plus ce qu'il avait été quelques dizaines d'années. Mais des vins du début du XXe siècle, s'ils ont été bien conservés, alors il y a une astuce pour ça dans les grandes maisons. On change les bouchons tous les 25 ans.
D'accord. Hein,
alors on change les bouchons tous les 25 ans parce que c'est par là évidemment qu'est la faiblesse.
Donc en fait, on va le étanchéifier en quelque sorte.
C'est ça. Alors on sacrifie quelques bouteilles pour faire le complément, puisque quand on enlève le bouchon, évidemment, on en perd un peu et puis il y a un petit peu de dépôt de.
Et le fait que l'oxygène rentre dans la bouteille pendant quelques secondes,
non, c'est pas grave du tout.
D'accord.
C'est pas grave du tout. Mais enfin, ça c'est exceptionnel. Il y a quelques grandes maisons de vin qui ont ce type de bouteille totalement historique. D'ailleurs hors prix, parce que ça se vend de temps en temps chez Sotheby's ou autre. Alors on n'est pas là pour ça. Je sais que de l'autre côté de certains postes, il y en a qui sont complètement malades avec des vins de 1848. Je témoigne, ça existe encore, même si ça n'est plus le grand vin que ça a pu être. Évidemment, ce sont des vins de très longue garde. Mais conserver des vins 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est tout à fait possible si on a une bonne cave. Alors nous sommes.
Et c'est assez commun le fait de garder un vin 10, 15 ans.
Bien sûr, ça dépend quel vin, hein, évidemment.
Oui, bien sûr.
Nous sommes avec Yann Falloon, bonjour.
Bonjour.
Yann Falloon,
oui, bonjour.
On est un peu les deux, je crois.
Suivant les régions.
Voilà, donc vous êtes suivant les régions. Vous êtes gérant de Polycave, et justement, Polycave, c'est une entreprise qui, vous le décrivez comme constructeur et installateur de caves. Alors, dans beaucoup de maisons, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de cave, notamment le pavillonnaire des années 70. Alors, est-ce qu'il est vraiment possible de créer une cave souterraine, hein, j'entends bien, on parlera d'autre chose tout à l'heure, dans une maison qui en est dépourvue, c'est quoi les obstacles?
Alors d'abord, la question c'est oui, on peut pratiquement toujours installer une cave dans l'existant, dans une maison créée depuis des dizaines d'années. Donc les obstacles, oui, il en existe bien évidemment. Alors d'abord, j'aimerais intervenir sur un point, parce que historiquement, les caves, quand on les fait dans l'existant, ça se faisait dans le garage. Et il y a une tendance qui se fait, qui est de plus en plus forte, à savoir installer les caves à l'intérieur de la maison, dans le cœur de la maison, puisque la tendance, c'est quand même montrer aussi le vin, le mettre en valeur avec des trappes vitrées ou des plafonds vitrés.
D'accord. Mais une cave, c'est quand même, qu'est-ce que vous amenez? Vous amenez un caisson en béton, par exemple. Ça va être très simple d'amener un caisson en béton au milieu de la salle à manger, non?
Oui, alors on n'emmène pas de caisson en béton dans l'existant. Dans l'existant, c'est pas possible.
C'est dans le neuf que vous faites ça?
Oui, tout à fait. C'est ce que vous appelez les caissons en béton, qui sont des structures préfabriquées béton. On les installe avant de construire la maison, soit avant de construire donc une maison, ou alors carrément aussi dans le cadre d'une extension.
D'accord. Alors, c'est quoi les solutions? Parce que j'ai vu, il y avait du béton, il y a du bois aussi. J'étais surpris de voir qu'on pouvait faire une cave en bois. Ça marche comment?
Ouais, c'est très surprenant. Souvent, on nous le dit. La cave ossature bois, c'est un concept qu'on a développé il y a déjà plus de 30 ans. Et le bois, c'est une structure préfabriquée. C'est un petit peu la même chose, la même différence qu'entre une maison traditionnelle et une maison ossature bois. On fait des caves ossature bois. On nous a pris pour un petit peu des.
Oui, parce qu'on a le sentiment que c'est enterré, ça va être humide, donc le bois va pourrir. C'est clair.
Hein, oui, tout à fait.
C'est l'image qu'on a.
Mais par contre, les caves sont étanchées par l'intermédiaire d'une membrane, d'accord, qu'on appelle des membranes d'étanchéité. Oui. Dans laquelle la structure est montée. Donc évidemment, comme cette membrane est faite pour durer, puisqu'il n'y a pas de durée de vie de cette membrane, puisqu'elle est dans le sol, à l'abri des UV, donc vous installez la cave est préfabriquée, on l'assemble par éléments à l'intérieur de cette membrane.
Oui, d'accord. Et ça peut être une vraie cave, c'est-à-dire, c'est pas seulement un petit réduit, c'est quelque chose qui peut être suffisamment spacieux?
Oui, bien sûr. Oui. Alors, ça reste avant tout des caves de stockage, mais on peut aussi avoir des caves dites de dégustation, ce qu'on appelle dégustation, des caves de convivialité.
Oui, y a des autorisations à demander. J'ai vu, alors je sais pas si c'est une idée reçue, que si ça faisait plus d'1,80 m sous plafond, fallait un permis de construire.
Vous êtes bien renseigné.
Ben je fais mon boulot. Hein.
Alors effectivement, pour les caves, il y a une réglementation donc assez récente qui stipule que une cave qui fait plus de 5 m² et avec 1,80 m de hauteur sous plafond doit être déclarée.
On est finalement comme un abri de jardin, quoi.
Ouais, à peu près.
C'est assez surprenant parce que on peut comprendre un abri de jardin que c'est une incidence sur l'environnement.
Oui.
Mais là, qu'est-ce que ça peut, excusez-moi l'expression, mais que ça peut foutre à l'administration que vous fassiez un trou dans votre salon pour y mettre une cave?
On est en France, on a besoin d'argent.
Oui, c'est ça.
Oui, parce que forcément, on paiera plus d'impôts fonciers.
C'est-à-dire qu'on paie la taxe d'aménagement.
On va payer 5 mètres carrés de plus.
Oui, 5 mètres carrés de plus en surface annexe.
D'accord. Et également taxe d'aménagement.
Là, par contre, il faudra poser la question.
Ah, mais je pense, si il n'y a pas de raison. Hein. Ça ne va pas chercher très très loin.
Hein. Si on met des bonnes bouteilles, on est taxé sur les bouteilles aussi ou pas?
Oui, vous l'avez été de toute façon, puisque vous avez payé l'acquis. Hein.
Et voilà, c'est
donc,
ça.
Donc, de toute façon, la taxation, elle a eu lieu. C'est quoi les critères de tout à l'heure, je parlais d'humidité, de température, d'éclairement d'une bonne cave?
Il faut 6 points. Alors vous en avez parlé de 3. Donc la température évidemment la plus stable possible, l'hygrométrie, il faut le noir, il faut aussi une ventilation, bien évidemment. Et puis
pas de vibration.
Et pas de vibration puisque ça peut être des fois parfois compliqué.
Donc en gros c'est quoi comme hygrométrie?
Le taux d'hygrométrie idéal d'une cave c'est entre 70 et 80%.
Ah oui d'accord. Et la température?
Idéalement
12, 13, 14, 15,
même 16, c'est pas très gênant en soi. Ce qu'il faut, c'est que ce soit la température la plus stable, qu'il y ait une évolution de la température qui soit la plus lente possible.
Donc on parle de ventilation, mais il n'y a pas besoin de chauffage ou de clim.
C'est une cave naturelle. Le simple fait de mettre une cave dans le sol, on va bénéficier de la fraîcheur naturelle du sol. Donc il n'y a pas besoin de mettre de clim, sauf peut-être dans certaines régions où les températures du sol sont quand même plus élevées.
Oui.
Je pense entre autres évidemment au bassin méditerranéen.
Ouais. Et alors la question qui fâche, ça coûte combien en gros si je me mets une cave bois ou une cave béton dans mon salon ou à l'extérieur d'ailleurs, je pense que les cas de figure sont variés.
Alors une cave à l'extérieur enterrée, oui, sous condition d'avoir un abri, d'avoir quelque chose au-dessus.
Par exemple le garage.
Par exemple le garage, si le garage est construit par la suite.
D'accord.
Parce que en fait le sol du garage va protéger en fait la cave, c'est ça?
Oui, il faut une structure au-dessus. D'accord. Pour protéger de l'ensoleillement, de la pluie, du froid, du chaud, enfin de tout ce qui peut intervenir en surface. Hein, puisque le sol a une évolution qui est très lente dans le temps, c'est très progressif, mais évidemment entre une exposition plein sud et plein nord, ça a quand même une incidence. Donc il faut absolument quelque chose dessus.
Alexandre est avec nous au 32-16 et il a une question sur ce sujet. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Bienvenue Alexandre, on vous écoute.
Merci. Je suis maître de chez dans le Médoc, en plein cœur du Médoc à Pauillac.
Bravo.
Merci. Dans une très grande propriété.
Ouais.
Et j'ai un projet de faire construire une maison. Et en fait, j'ai l'envie de faire une cave en plein centre de la maison qui serait un peu centrale dans la maison, qui serait toute vitrée et qui départagerait en fait le salon, salle à manger, cuisine.
D'accord.
Et je voulais savoir qu'est-ce que je pouvais mettre comme climatisation dans cet espace.
Mais elle sera enterrée, votre cave ?
Non, elle serait au milieu de la maison.
Ah, au milieu de la maison, donc toute c'est vitrée. Une... Voilà, toute vitrée, c'est...
Et un peu comme on voit dans les restaurants, les choses comme ça ?
Voilà, tout à fait, c'est
d'accord.
Ça.
D'accord. C'est une cave-bar, on appelle ça, non ?
Voilà,
non,
c'est ça. Ouais, ça
non, on appelle ça plutôt des caves-vitrines, des espaces vitrés et climatisés.
Alors,
c'est, une autre, c'est vraiment une autre technique, puisqu'il faut absolument déjà que la structure soit complètement étanche à l'air, hein, c'est très important. Et le choix du climatiseur se fait en fonction de la taille et puis aussi des contraintes techniques.
Mais c'est pas les mêmes climatiseurs, hein. C'est des climatiseurs spécialisés, quand même.
Oui, ce sont des climatiseurs de cave. Il existe quelques marques en France, justement, qui ont développé des produits de très bonne qualité. Et, donc, mais ce sont des climatiseurs de cave, puisque la température demandée est inférieure à la température, donc, qu'on peut demander dans une climatisation de maison.
Et c'est quoi la température, on va dire, moyenne idéale pour conserver du vin?
On l'a dit, là, 12, 13, 14, 15, 16,
c'est pas, voilà, c'est dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, oui.
Mais, alors, moi, la question que je me pose, c'est que, on dit souvent, il faut conserver du vin dans des endroits qui sont pas trop lumineux, etc. Mais là, c'est vitrine, en fait, comme c'est du verre.
Ouais, on met du verre exprès,
qui casse les UV, hein,
parce que malgré tout, on voit la vitrine. Voilà. Mais à l'intérieur, la lumière ne passe pas, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, ouais.
C'est ça, enfin, ce sont les UV qui ne passent pas.
C'est ça.
Et contre la condensation aussi, parce que quand on a un écart de température entre l'intérieur et l'extérieur,
mais d'ailleurs,
ce sont des verres exprès.
C'est très drôle, parce que les vins, les bouteilles qui sont exposées à la lumière, on dit qu'elles prennent ensuite le goût de lumière.
Tiens.
Oui, il y a la maladie, surtout sur les vins blancs.
Voilà.
Ouais. Il faut surtout éviter sur les vins blancs, ouais.
Bien sûr.
D'accord. Mais j'imagine que ce type de cave, c'est du très haut de gamme, non? Parce que il y a plein de contraintes qu'on n'a pas quand on a une cave qui est en souterrain, non?
Ouais, bien sûr.
Ouais. Ouais, il y a des contraintes, bien évidemment. Surtout la clim, hein, dont on a parlé.
D'accord.
Et l'étanchéité à l'air, donc, est indispensable.
Ouais. La clim et la ventilation, c'est-à-dire la déshumidification, mais pas trop forte, parce qu'il faut quand même une bonne hygrométrie.
Oui, tout à fait, ouais.
Hein, et Alexandre, vous êtes renseigné, c'est un investissement costaud, ça, ce type de cave?
Ben, je suis en train de faire des études là-dessus, justement, je sais pas trop quoi apprendre encore comme profiler. J'ai plusieurs études et c'était aussi la climatisation qui me posait problème. Je sais qu'il y a, bon, je sais pas si on peut citer des marques. Je crois qu'il y a Eurocave qui fait des modèles comme ça ou des choses comme ça, mais après j'ai pas d'autres marques.
Alors on va parler aussi, parce que c'est un petit peu cousin de tout cela. On a qui nous attend en ligne, Olivia Lejour, qui est chef de produit chez Liber, qui est spécialiste de la cave d'appartement. On va
on en parle dans quelques instants. Alexandre, ça vous va?
Parfait, je vous remercie.
Voilà, et puis restez avec nous, puisqu'on va continuer sur on va dire ce sujet avec cette fois-ci les caves d'appartement. Ça peut être peut-être aussi une bonne
solution
alternative pour Alexandre, finalement, si il enchaîne plusieurs caves d'appartement.
C'est possible aussi, mais là ça va. Je sais pas si ça sera très beau, et en tout état de cause, ça lui coûtait beaucoup plus cher, à mon avis, que de faire un ensemble complet, non?
Je pense, ouais. De toute façon, on s'aperçoit que la plupart du temps, les gens démarrent avec une armoire à vin, puis une deuxième, vous appelez les caves d'appartement, et puis à un moment donné, se pose la question, que faire après? Donc, la cave enterrée devient la solution.
Oui, et bien sûr, c'est ça. Il est 8h20, on parle des caves à vin ce matin, vous voulez réagir, 32-16, l'appli RMC Direct Studio, à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.